distribuer sur le marché à Scarbeck un tract sur la transition durable, ça n'a aucun sens.
Good Move est aux classes populaires de Bruxelles ce que la taxe sur l'énergie est aux gilets jaunes.
J'ai pas les moyens d'acheter le poulet de la ferme à 30 balles.
Les gars, si c'est une bonne idée gentillette qui fait que même le CDH aurait pu la dire, c'est que c'est pas une bonne idée.
Malgré le fait qu'on ait des processus formels de démocratie ou de participation, les gens ont l'impression d'être absolument pas entendus.
Fin du monde, fin du mois est un slogan que l'on a beaucoup entendu dans les manifestations pour le climat. C'est aussi le titre d'un livre publié aux éditions Luc Pire et Utopia. Voici un débat animé par Anaïs de Munck, politologue. Avec Brieux Watley de la cellule politique de Solidaris, il est ancien président de la Fédération des étudiants francophones. Mais aussi Zoé Genot, ancienne mandataire écolo. Fin du monde, fin du mois, on va commencer par la fin du mois. Vous êtes au Vert Pop de Namur le 23 août 2024 et Marie Gobert, autre invitée de ce débat, explique comment elle est devenue en Belgique gilet jaune.
Je suis née militante en 2018. Avant ça, j'ai une conscience du monde, certainement, mais je ne me sens pas hyper concernée. Pourtant, j'ai un papa syndicaliste qui revendique les droits des travailleurs, mais comme ça vient de mon père et que je suis dans une époque contestataire, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui me réveille, c'est mon fils qui, à l'âge de 14 ans, revient avec un bulletin plutôt moyen. Et je lui dis, tu sais, c'est quand même important de bosser à l'école et d'avoir un diplôme parce que ça va te permettre d'assurer ton avenir. Et là, il me dit quelque chose de très pertinent. Il me dit, mais de quoi tu parles? De quel avenir? La planète part en couille et de toute façon, du boulot, il n'y en a pas pour tout le monde. Alors à quoi bon me casser le cul à l'école? Ben, ça, je ne sais pas répondre grand-chose parce que le constat est terrible, mais il est vrai. Et j'ai aussi une fille. Qui est plus jeune, enfin, qui a 2 ans de moins, mais qui travaille bien à l'école, donc je ne me tracassais pas trop pour son avenir, à ce moment-là. Et puis, en 2018, il y a un groupe qui est en train de se former sur Facebook, qui s'appelle Action citoyenne contre les mesures gouvernementales, qui est en lien avec ce qui est en train de se passer au niveau des gilets jaunes en France. Et la revendication à l'époque, c'est une taxe sur le carburant. Et moi, je me dis, je suis un peu ça de loin en me disant qu'effectivement, il y en a marre qu'on vienne chercher l'argent dans nos poches. Mais tout en me disant, tiens, je vais quand même regarder. Je vois qu'ils cherchent des responsables de zone. On parle de blocage de dépôts pétroliers, d'actions plutôt radicales. Et ça, ça me parle. Venant d'un milieu populaire où la lutte syndicale était rude, parce que mon père a lutté quand même. Et je commence à regarder un petit peu. Ils cherchent des responsables de zone pour les régions Namur, Mons et compagnie, mais je me dis, ne sachant pas où tu vas mettre les pieds, regarde ça de loin. Et puis, je me rends compte quand même que sur mon budget, le carburant pèse beaucoup. Parce que je suis mère célibataire et que j'ai absolument besoin de ma voiture pour aller bosser. Alors, je n'ai pas moyen de prendre les transports en commun parce que je bosse de nuit. Et donc, les bus, ils ne passent pas pendant la nuit. Et la région dans laquelle je vis, n'en parlons même pas. Le 17 novembre 2018, je me dis, toujours en référence à ce que mon fils me dit à son bulletin qui était de 15 jours avant, mais tu ne peux pas, en tant que maman, ne rien essayer de faire pour l'avenir de tes enfants. Donc, même si c'est une connerie à ce moment-là, parce que je ne sais pas ce que ça va être, fais-le. Et donc, je mets mon réveil à 2h30 du matin, parce que le rendez-vous était fixé à la Cinépolis, ici à Namur, à 3h. Je me dis, je verrai bien, peut-être que je serai toute seule, peut-être que pas. Et je frappe à la porte de la chambre des enfants et je leur dis, ne me posez pas de questions maintenant. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais le faire. Je vais le faire en essayant de faire quelque chose pour votre avenir. Et puis, on verra bien. Je suis rentrée 10 jours plus tard. Donc, je me suis vraiment politisée ce jour-là. Donc, je n'ai pas abandonné mes enfants quand même. Ils allaient chez leur père pour la semaine après. Donc, ils étaient en sécurité. Je suis rentrée deux fois pour prendre une douche parce que la vie sur un blocage autour d'un feu à moins 8, c'est rude. On ne sait pas si on est brûlé du feu ou si on est gelé, donc on a des engelures, et donc j'avais besoin de me réchauffer. Et là, je ne sais pas, je me suis réveillée. Politiquement, je suis née à ce moment-là parce que j'ai rencontré des tas de gens, comme moi en fait, qui bossent et qui n'y arrivent pas, malgré tout. Et on a eu mauvaise presse. On nous a traités de tous les noms, de baraquis, de chômeurs, de profiteurs, de guindailleurs, parce que c'est vrai que l'ambiance sur les feux de blocage était bonne. Mais en fait, on était tous des travailleurs. Et pas mal de mamans, des mamans toutes seules aussi. Et donc, je me suis dit, mais t'es pas toute seule. Donc, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Pendant ces 10 jours-là, je me suis rendu compte de quelque chose que j'avais oublié, c'était la solidarité entre les gens. J'ai jamais autant mangé que sur les 10 jours que j'ai passés sur les blocages, parce que les gens s'arrêtaient pour nous déposer de la nourriture, nous amenaient... Il y a quelqu'un qui nous a quand même proposé le cognac à 7h du matin. Ben, quand on ne sait plus comment on vit, on ne crache pas dessus parce qu'on a froid. Donc, et là... autour de ce feu, les gens ont discuté et ils ont déposé leurs problèmes de vie, leur manière de voir la politique ou l'absence de politique. Alors, on a d'abord parlé beaucoup de mouvements apolitiques parce qu'on a essayé de nous récupérer par les partis politiques et en fait. Avec le temps, je me rends compte que j'ai jamais été autant politique qu'à ce moment-là, mais sans parti. Quand on engage son corps dans la lutte, il n'y a rien de plus politique, en fait. Et on était quand même nombreux. Donc nous, on était à Vierde. C'était un dépôt, je ne sais pas si vous voyez, c'est près de... au Green. Un dépôt au niveau du blocage, ça ne servait pas à grand-chose, si ce n'est... que ça nous donnait une vitrine, en fait. On était bien vus, il ne se passait rien de dramatique comme il a pu se passer à Feluy. Et donc, on avait bonne presse, et ça nous permettait de pouvoir discuter avec les gens. Et pas mal de gens, en fait, sont venus nous dire que ce qu'on faisait, c'était bien. Alors que ce qu'on disait de nous, c'était de la merde, en fait. Ce qu'on faisait ne servait à rien... Et moi, je me dis que ça a servi, en tout cas, pour moi, à me politiser, à me rendre compte qu'il y a un monde autour de moi et que ce monde est injuste, même si je le savais avant. Hein, mais je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là. Et une fois qu'on a ouvert les yeux, c'est vraiment difficile de faire comme si on ne savait pas. Alors, donc, je me suis engagée... corps et âme, c'est le cas de le dire, dans une lutte pour une justice sociale. Et par la suite est venue se greffer une justice environnementale et par après la démocratie. Mais il faut choisir ses combats. Donc on a beaucoup parlé de convergence et donc j'ai pu rencontrer des militants... extraordinaires, qui sont devenus des amis par la suite, dont Brieux, ici, à côté de moi, qui est venu avec un de ses amis à l'époque, sociologue, sur le rond-point, voir ce qui se passait. Et donc, je vois deux personnes, il faisait dégueulasse ce jour-là, donc avec les capuches, les mains dans les poches, qui regardent un peu autour d'eux, de voir ce qui se passe, et je me dis, bah, tiens, je les ai jamais vus, ces deux-là, je vais aller discuter avec eux. Et à ce moment-là, Brieux est engagé dans les luttes climatiques avec Act for Climate Justice et la lutte sociale avec la campagne Tam Tam. Et on commence à discuter à bâton rompu, en fait. Et on se rend compte que dans nos discours, c'est sensiblement la même chose, en fait. Sauf que les moyens qu'on a ne sont pas les mêmes. Et de là vient tout un travail de réseautage entre les militants, qui n'a pas été sans mal. On n'a pas été hyper bien reçus. Et je vis pour la première fois du mépris de classe. Parce que, en fait, je côtoyais pas, entre guillemets, de personnes bourgeoises avant ça. Je côtoyais que des gens de ma classe. Et première marche pour le climat, parce que Brieux me dit « Ah, viens à la marche du climat, tu vas voir, ça va être bonne ambiance, ça va être sympa, ce serait bien que tu sois là, machin. Pourquoi pas ?» Et là, je me suis... J'ai pas été honteuse d'être qui je suis, mais on m'a fait sentir que j'étais pas à ma place, en fait. On m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fous là avec ton gilet jaune? Tu t'es trompée de marche. » Je me suis dit, mais enfin, pourquoi je me suis trompée de marche? Enfin, c'est pas parce que je milite pour avoir quelque chose dans mon assiette que je suis pas concernée par l'état de la planète, en fait. Et donc, après tout ça, on a essayé de créer des liens, des ponts, pendant des années. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de boulot. Donc
c'est intéressant ce que tu dis. Peut-être après on parlera donc de l'action Afelui dont tu parlais. Mais justement pour compléter sur ton histoire, du coup toi Brieux, ton point de vue dans cette rencontre, donc quand tu rencontres Marie et que en fait t'es dans des mouvements beaucoup plus organisés, dans une société civile aussi qui pour qui les gilets jaunes sont un peu des ovnis. À un moment on disait ouais c'est des gens d'extrême droite. En fait on n'est pas ensemble. Ils veulent juste arrêter les mesures climatiques. Il faut une augmentation du prix de l'essence, etc. Bah toi, tu vas sur ces ronds-points, tu rencontres des gilets jaunes et tu te dis, mais en fait, il y a des liens. Comment est-ce que ça s'est fait, du coup, d'aller voir des mouvements et d'essayer de créer justement une convergence?
Ben, en fait, moi, à l'époque, j'étais coordinateur de la campagne Tam Tam, qui était une campagne organisée par une soixantaine de grosses organisations, des structures syndicales, des mutualités, des organisations non gouvernementales et puis des organisations climatiques aussi, qui avaient pour objectif de dénoncer le caractère néolibéral qui transparaissait dans toutes les politiques publiques qui étaient menées par le gouvernement Michel. Et c'était un petit peu, voilà, c'était une espèce de... Bon, je le dis a posteriori, hein, mais c'était l'atterrissage, un peu le recyclage de l'action gouvernementale, enfin de l'action syndicale qui avait démarré très fort en 2014. Et donc, moi, j'étais plus jeune encore qu'à l'époque, j'étais quand même baigné dans un environnement, dans des espaces de socialisation dans lesquels on disait souvent l'objectif, c'est de construire des rapports de force avec les gens pour essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de redistribution des richesses. L'écologie est un combat politique, il va falloir mener avec les gens. Et donc, il y avait cette idée permanente de construire un rapport de force avec le peuple ou avec les gens. Mais en réalité, on n'était pas en contact avec le peuple. Et surtout, on était... quand les Gilets jaunes débarquent, on est dans une campagne qui est très institutionnelle, avec des appareils syndicaux qui ont leur propre espace d'organisation, avec leur propre structure. Et ces mouvements sont d'abord, et c'est le premier cliché qui est sorti, sont d'abord des mouvements de lutte qui s'organisent en dehors des espaces classiques. Et donc, comme tout appareil syndical et mutualiste aussi, hein, quand ils voient apparaître un mouvement émergent en dehors de leur propre structure, il y a directement une méfiance qui naît, parce que ce qui naît en dehors peut naître ou peut constituer quelque chose qui va à l'encontre. Et donc, il y a eu de la part des organisations syndicales, au mieux, de la lenteur à la réaction. Et moi, j'étais en fait le vendredi en bureau de cette campagne Tam Tam, et avec Marc Zune, j'ai proposé en disant, moi, là, je prends ma voiture et on va au blocage. On va au blocage rencontrer les gens. Et puis, on est resté le week-end là. Et finalement, on s'est effectivement rendu compte que, en fait, c'était plus des défaillances au niveau des espaces d'organisation, des structures syndicales qui faisaient naître ces espaces nouveaux, ces espaces dans lesquels les gens avaient l'impression d'avoir plus de pouvoir d'agir, plus de capacité d'action et surtout des actions qui, parfois, pouvaient paraître plus performative, plus performante par rapport à ce qu'ils avaient besoin de revendiquer. Donc ça, c'est le premier cliché qui était véhiculé sur les gilets jaunes. Le deuxième cliché, c'est que, évidemment, après, moi, j'étais activiste climatique avec Act for Climate Justice, je reviens de ce blocage des gilets jaunes et je vais voir mes copains activistes en leur disant « ils ont besoin d'aide ». Concrètement, ils ont besoin d'aide. C'est des personnes qui ont une expérience militante qui est en construction. Et nous, on est baignés là-dedans depuis quand même quelques années. On sait comment on rédige des tracts, on sait comment on parle aux médias, on sait, on a toute une série de techniques qui nous permettent d'être des aides au mouvement. Et surtout, les Gilets jaunes nous le demandent en disant « venez nous aider, on a besoin d'un coup de main », etc., etc. Et en fait, là, je me rends compte qu'il y a deuxième vague de clichés qui arrive, l'idée basée sur, d'abord, je pense, un premier élément, c'est la légitimité de l'action. En quoi est-ce que nous, ce qu'on me disait à l'époque, hein, petits blancs privilégiés, on va aller se mêler d'une lutte qui ne nous concerne fondamentalement pas. Et à travers ça, il y avait quand même cette idée que je vois aujourd'hui d'une espèce de projection idéalisée d'un peuple qui n'existe pas. C'est-à-dire ce peuple qu'on va organiser, mais qui est pur, parfait, avec les revendications, où les revendications sont idéales et collent parfaitement à ce que nous, on a envie. Et en réalité, ce n'est pas comme ça que les choses se passent, évidemment. On a été confrontés à ça, et du coup, à cette problème de légitimité qui est en soi une question à se poser, mais qui a amené une paralysie du mouvement climatique, qui sur le moment n'est pas descendu sur les blocages, avec la force de frappe qu'on avait avant, a mis beaucoup de temps aussi à débrayer, et je crois, avec le recul, qu'on aurait pu, franchement, être dans une logique d'alliance qui aurait permis aux Gilets jaunes d'avoir beaucoup plus de résonance. Et le troisième élément, le troisième cliché, qu'on entend aussi encore assez fort, c'était la question de l'extrême droite, c'est-à-dire, en fait, dans le fond, on a des petites gens qui se battent pour des questions, mais on voit très bien qu'il y a une série de revendications qui flirtent avec les idées d'extrême droite, et donc on va pas nous descendre parce qu'on veut pas se mêler à ça, parce que l'extrême droite, c'est nos passaranes, etc. Donc il y avait le problème de la légitimité, le problème de l'extrême droite et le problème des structures classiques d'organisation qui renvoyaient dos à dos les syndicats et les Gilets jaunes. Et je crois modestement que la campagne Tam Tam a balayé un petit peu ça en disant maintenant il faut qu'on se mette autour de la table parce que fondamentalement sur la question de l'extrême droite, si nous on ne vient pas concrètement occuper le terrain, parler avec ces gens, discuter, construire des relations, c'est évident que l'extrême droite va arriver et en plus on l'a vu, l'extrême droite est venue dans une série de blocages, mais tous les blocages des Gilets jaunes ont expulsé naturellement par des processus démocratiques naturels l'extrême droite assez facilement. Donc il y avait et ça c'était un élément. Enfin voilà, c'était une période intéressante politiquement où c'était si on n'occupe pas le terrain, forcément il y en a d'autres qui vont l'occuper. Point. Et donc quand j'ai rencontré Marie, effectivement ça a été. Enfin en tout cas moi je me suis pris une bonne claque aussi dans toute une série de mes certitudes en disant c'est par la construction d'espaces d'organisation communs, de lutte commune qu'on va pouvoir créer de la convergence politique. C'est-à-dire renverser la vapeur. C'est plus par des construction programmatique commune, de convergence programmatique commune, qu'on crée la convergence, mais c'est par la construction d'espaces de lutte commun. Et on verra, et c'est un peu contre-intuitif de le dire, mais on verra pour le programme après. C'est d'abord parce qu'on bloque un dépôt et qu'on voit les conséquences pratiques que ça a sur l'économie, sur le blocage de l'économie, et que ça crée des liens de solidarité, des espaces dans lesquels nos codes sociaux, Marie et moi, on n'a pas les mêmes codes sociaux, peuvent s'entrechoquer, qu'on va pouvoir à un moment tomber d'accord sur une vision commune d'avenir. Et en réalité, moi, pour moi, ça a été très structurant dans la suite de mon parcours militant, quoi.
Merci Brieux. Zoé, je vais aussi te poser une question. Donc toi, à l'époque, tu es parlementaire écolo, justement, et les Gilets jaunes émergent en même temps, en effet, plus ou moins que des marches pour le climat, avec un mouvement qui va aussi s'amplifier dans l'année qui suit. Et comment est-ce que ce mouvement est perçu? Est-ce que toi, tu te dis, à cette époque, en effet, l'écologie n'est pas assez populaire? Est-ce que ça a fait évoluer ta vision? Comment est-ce que tu vois les choses à cette époque?
Mais je dirais deux choses différentes. Que l'écologie ne soit pas assez populaire, ça c'est totalement clair. Mais par rapport aux Gilets jaunes, dans un premier temps, on se dit « Ah, c'est plus en Wallonie, on va laisser faire les Wallons ». Et puis à un moment, les marches arrivent sur Bruxelles. Et donc moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit on a quand même une certaine habitude de la façon dont les policiers gèrent les événements à Bruxelles, etc. Donc là, je me suis dit on va quand même être utile si on va faire un petit tour à ces marches, etc., pour que ça se passe bien. Et par rapport à l'entourage écolo, ça a été très, très, très mal reçu. Donc tout le monde m'a dit, ne va pas à ces marches. On y a vu des gens d'extrême droite. n'y va pas, il ne faut pas y aller, etc. Bon, j'avais un peu l'habitude, parce que quand j'allais chez les musulmans, on me disait « n'y va pas ». Quand j'allais à différents endroits, on me disait « n'y va pas ». Donc, j'avais une certaine habitude. Et honnêtement, la façon dont ces marches gilets jaunes ont été reçues sur Bruxelles, j'avais jamais vu un dispositif policier aussi dingue. Parce qu'il y avait certaines démarches, il n'y avait pas grand monde. Il y avait peut-être, je sais pas moi, 200 personnes. Et ils étaient littéralement... mais canassés dans des rues vidées du centre-ville, mais avec le même nombre de policiers, etc. C'est, je dirais, la violence du dispositif était tellement folle que ça m'a permis de discuter avec une série de personnes, plus des questions police que d'autres questions, parce que c'était les gros thèmes à l'ordre du jour aux occasions où moi j'ai rencontré les gilets jaunes plus que d'autres thèmes. Mais je pense que ce dispositif policier traduisait la façon dont la société accueillait ce mouvement de gilets jaunes. Et le travail médiatique avait été déjà suffisamment fait, qui fait que vous étiez étiqueté groupe dangereux qui doit être très, très, très encadré. Sinon, ils vont démonter la ville de Bruxelles ou à peu près. Et là, fatalement, le dispositif policier autour criminalisait en tant que tel, puisque c'est vraiment l'image qui était donnée. Donc moi, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment travailler avec le mouvement Gilets jaunes. Mais je pense que... la façon dont Écolo était excessivement mal à l'aise par rapport au gilet jaune reflète deux éléments. Un élément, je dirais, de type plus idéologique, programmatique, qui est de dire « aïe, aïe, aïe ». Je veux dire, ils mettent les doigts sur une de nos difficultés. C'est-à-dire que nous pensons qu'un des outils pour diminuer la consommation de l'énergie, c'est le renchérissement de l'énergie. Et en même temps... ils mettent totalement le doigt sur le fait que ces mesures ne sont pas praticables à l'heure actuelle tant qu'il n'y a pas des transports en commun convenables qui irriguent toutes les rues, tant qu'il y a toute une série de gens qui sont les laissés pour compte des mesures qu'on propose. Et donc, il y avait vraiment, fatalement, une très grande gêne, je dirais, de fond sur les sujets. Et deuxièmement... tu as parlé de mépris de classe, de stigma. Il y a aussi, et ça, je pense que c'est plus global, c'est peut-être pas les personnes qui sont dans cette salle qui sont les plus concernées, mais aussi une difficulté de travailler avec les milieux populaires dans le parti. Par exemple, en 2018, quand j'accepte de tirer encore une fois la liste à Saint-Josse, je dis, bah, écoutez, on habite à Saint-Josse. Saint-Josse, la commune la plus pauvre de Belgique, Saint-Josse, la commune la plus populaire, il est hors de question qu'on fasse une liste à la Écolo avec une longue kyrielle d'universitaires blancs. Soyons bien clairs, même si on a 30 militants et qu'il nous faut 29 personnes sur la liste, la moitié de la liste, ce seront des personnes qui ont des parcours de vie tout à fait différents, qui nous ouvrent à d'autres réalités, qui nous font vivre la commune de manière différente. Et ça, moi, c'est seulement à cette condition que j'accepte de faire encore une fois la campagne à Saint-Josse. Et la suite montrera que quand on travaille avec les gens, ça demande un travail différent. Et donc, en effet, ça nous met... en inconfort, parce que il faut refaire à chaque fois les choses, il faut expliquer, il faut adapter. Et quand les gens nous renvoient « Oula, votre processus est chiant », ils ont souvent raison, etc. Et quand ils disent « Oui, mais là-dessus, vous ne parlez pas, alors que c'est des sujets vraiment importants pour nous, et là, telle et telle chose que vous proposez, mais écoutez, non, ça ne nous parle pas, on n'est pas d'accord avec vous », ça remet en compte. Et donc, c'est beaucoup plus facile de travailler... dans un entre-soi, mais c'est beaucoup moins riche et ça apporte beaucoup moins à notre pensée, à notre façon de travailler. Et donc, je pense qu'on n'a pas le choix. Si on veut travailler bien, on doit incorporer des gens qui ont d'autres vécus, qui ont d'autres préoccupations et qui vont nous interpeller et qui vont nous obliger de bosser différemment.
Merci Zoé. Marie, j'aimerais bien te demander de réagir là-dessus. En préparant ce débat, justement, tu me disais, mais en fait... Moi, écolo, ce qui me dérange aussi, c'est des fois qu'on arrive vers nous avec des solutions toutes faites. Et donc, je trouve que ça fait aussi le lien avec ce que Zoé dit, de dire, en fait, on doit amener des nouveaux vécus, on doit amener de la diversité, des manières de voir les choses différentes. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être commenter là-dessus et donner ton point de vue ?
Ben, oui. Le problème que je rencontre avec les lignes directives d'écolo, que je suis malgré tout parce que c'est le parti qui me ressemble le plus, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, même si je défends des valeurs de politique sociale. Et, écolo me semble le plus... ou le moins... Je ne sais pas comment le formuler, en tout cas, mais je ne vous aurais jamais dit ça en 2018. Hein. Pour moi, il ne fallait pas me parler de parti politique, ça ne servait à rien. Je me suis quand même bien rendu compte que l'autogestion pour un pays, c'est un peu compliqué. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu aux lignes que les partis pouvaient proposer. Et écolo est celui pour lequel je me rapproche le plus. C'est pour vous dire, j'avais plus voté depuis 20 ans. Et j'ai voté écolo ici aux européennes. Donc, comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Mais donc, effectivement, le problème que moi, je rencontre, c'est qu'on vient avec des solutions clés sur porte qui ne nous concernent pas ou qui nous handicapent. Le gros débat qu'il y a eu autour de la voiture de société, alors c'est bien beau de vouloir les supprimer, et je suis d'accord que quand on a une voiture de société qu'on n'utilise pas, ça ne sert à rien d'en avoir une. Mais là où je vis, si j'avais une voiture de société, je vous garantis bien que ce serait bien pratique, parce que ça enlèverait un méga poids de mon budget et ça me permettrait de me déplacer autrement. Donc il y a tout un tas de mesures comme ça qu'on nous met devant nous et qui ne nous intéressent pas, en fait. Ou qui, vraiment, quand on vient nous dire on va taxer ceci, mais moi, j'ai plus de thunes pour tes taxes. Alors, je ne suis pas contre de payer des taxes, hein, parce qu'il faut... Enfin, il y a un effort collectif à faire. Mais moi, je ne peux plus, en fait. Donc, il faut pouvoir aller chercher l'argent là où il est. Et on sait que de l'argent, il y en a. Mais plus dans les poches des citoyens, en tout cas. Et je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux manifestations et les marches et compagnie. Moi, c'est la première fois que je sors en manifestation, ce genre de marche. Et en réponse, j'ai des gaz lacrymogènes et des coups de matraque. Et donc, en fait, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer, parce que je suis juste une mère qui veut essayer d'assurer un avenir à ses gosses. Et je ne comprends pas pourquoi en face, la réponse est aussi musclée, en fait. Et je me dis, à ce moment-là, mais quand tu as essayé de... Après, parce qu'après, on nous a traités de casseurs, de tout ce qu'on peut imaginer. Mais quand tu as tout essayé avant, et qu'en réponse, tu te prends des gaz lacrymogènes ou des arrestations. Moi, j'ai toujours réussi à passer entre les mailles du filet. Je ne me suis jamais fait arrêter. Mais j'ai des copains qui ont fait des heures de garde à vue juste pour avoir manifesté, alors qu'on a le droit de manifester en Belgique, quoi. Eh bien, il y a de quoi prendre un pavé et le lancer, en fait, à un moment donné, quand on n'est pas entendu. Donc, il faut entendre les gens de la base... si on ne veut pas en arriver à ce genre de violence, en fait. Parce que la violence, elle est institutionnelle. Elle ne vient pas du gars qui fait ce qu'il peut pour s'en sortir, qui balance son pavé contre une vitrine de chez Dior. Enfin, voilà, les gens se sont outrés parce que il y a des vitrines de chez Dior qui ont été cassées. Mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas mon souci. Enfin, ce n'est pas ma préoccupation principale. Ce gars-là, si ça tombe, il a essayé d'aller toquer dans tel parti en disant « ou chez près de son bourgmestre, aide-moi, j'ai besoin d'un logement social, je ne m'en sors pas, je vais finir à la rue. » Mais après, qu'est-ce qui reste à part un pavé à lancer si on n'est pas entendu, en fait. Donc, il faut vraiment, pour moi... Alors, je ne sais pas comment, hein, mais il faut créer des espaces accessibles à tout le monde où chacun peut venir déposer pas sa problématique personnelle, parce que on est beaucoup en Belgique et donc chacun a ses petits soucis. Mais en tout cas, il faut arrêter de faire peser des problèmes structurels sur les individus. Et il faut pouvoir créer des espaces où on sort de cet entre-soi, effectivement. Parce que pour avoir vécu de bousculer, je dis toujours, mais je le dis maintenant avec de la bienveillance, quand je dis les bourgeois de gauche de Bruxelles, maintenant c'est bienveillant dans mon cœur quand je le dis, mais à l'époque, c'était pas du tout bienveillant, en fait. Hein. Avec le temps, on a appris à se connaître, on a découvert nos codes sociaux dont parlait Brieux tout à l'heure. On ne parlait pas de la même chose. Eux parlaient de personnes en situation de pauvreté. Ben non, on est pauvre, en fait. Parce que quand on dit en situation de pauvreté, ça veut dire qu'il y a espoir que la situation change. Alors oui, dans un lointain futur, on espère que ça va changer. Mais en attendant, on est pauvre. Donc, moi, j'appelle un chat, et donc ça a été très bousculant quand je suis arrivée dans les milieux militants. Et alors, il y avait les espaces de, les temps de parole, la façon, enfin, tout ça ne me parlait tellement pas. Donc, ça a créé quelques conflits au départ, qui, avec le temps, quand on apprend à se connaître, en fait, et quand on vit des choses avec ses tripes ensemble. Ben, ça permet de se rendre compte de la réalité de l'autre, qui n'a peut-être pas forcément conscience de ma réalité à moi, parce que tu as très justement dit tout à l'heure, les gilets jaunes, c'est en Wallonie. Mais moi, de mon point de vue à moi, je me dis, mais les luttes s'arrêtent à Bruxelles et sa périphérie. Et les militants de Bruxelles ne viennent pas en Wallonie quand on a besoin d'eux, en fait. Donc, je pourrais encore parler pendant des heures.
Mais c'est super intéressant et peut-être pour rebondir justement sur ce que tu dis, après on va parler vraiment de la convergence entre militants parce que tu as des choses intéressantes à dire, mais Brieux, j'aimerais venir vers toi justement sur la question de créer des espaces de dialogue et pour opter à raccrocher un peu le débat à l'actualité de ces dernières années. On a eu un grand débat à Bruxelles qui est Good Move, donc avec un plan, voilà. On ne va pas faire un débat sur Good Move, je vous promets, parce qu'on ne va pas en sortir, mais en tout cas, il y a eu quelque chose d'intéressant, notamment, en fait, tu parlais de lancer un pavé. Donc, on a eu de la violence dans les rues à cause de cette question qui paraissait, entre guillemets, anecdotique, en fait, pour les écologistes qui ont mis ça en place et qui disent, en fait, voilà, on doit faire des mailles, la qualité de l'air, c'est bien. Et en fait, les premières personnes à avoir une mauvaise qualité de l'air, à avoir une espérance de vie qui baisse, c'est les classes précarisées. Donc, on va faire ça à Kureghem, par exemple, à Anderlecht, un des quartiers aussi les plus pauvres de la capitale, à Skarbek aussi, dans une zone autour de Sainte-Marie. Et là, on se retrouve, en fait, avec de nouveau un mouvement qu'on n'attendait pas, avec des mesures qui paraissaient, voilà, on s'est dit, on va faire des consultations communales comme on le fait toujours, c'est de l'urbanisme. Et en fait, on se retrouve avec des gens qui disent ça va pas du tout. Évidemment, on dit il y a une instrumentalisation, etc. Mais dans le fond, il y a une question, c'est comment est-ce qu'on consulte les gens quand on met en place la transition écologique et comment est-ce qu'on fait pour les prendre avec nous. Et toi, Brieux, du coup, t'es quand même installé à Bruxelles et t'as beaucoup entendu parler de ça. Et j'avais envie d'entendre ton commentaire sur le sujet.
Donc, moi, j'habite dans le quartier des Marolles, place de la Querelle. Et alors, on a un projet depuis maintenant une dizaine d'années avec les jeunes et les familles qui habitent à la Querelle, communauté, c'est une enclave dans une enclave, la place de la Querelle, j'habite à côté d'une mosquée, la communauté, il y a une grande communauté musulmane, la religion est fort présente, et je suis en contact permanent, je suis accompagnateur social, c'est comme ça que le CPS de la ville de Bruxelles m'appelle, je suis accompagnateur social, c'est-à-dire que je fais le lien avec des gens, des jeunes qui sont très très loin du CPS, pour les amener simplement à l'apport du CPS. Donc évidemment, bon, on a beaucoup de discussions. C'est un espace informel. Moi, j'aime bien cette idée-là que le CPS nous donne. On est 8 dans cette maison et j'habite avec deux personnes qui progressivement, ça fait 5 ans qu'on habite là, deux personnes qu'on a accompagnées et qui maintenant habitent avec nous. Et donc on est vraiment dans une espèce de mixité. Et je vous avoue que en termes de conflict, enfin voilà, Marie est déjà venue, il y a des gens ici qui sont déjà venus. En termes de conflictualité, en termes de codes sociaux, c'est assez intéressant. Moi, je pense, mais bon, je n'ai pas de certitude, mais moi, je pense que Good Move est aux classes populaires de Bruxelles ce que la taxe sur le carbone, enfin, sur l'énergie est aux gilets jaunes. C'est-à-dire un symbole, une expression d'un mal-être général qu'on a tendance parfois à oublier. Et d'ailleurs, je me souviens très bien qu'au moment des gilets jaunes, il y avait un peu cette idée de dire, mais comment ça se fait que c'est très wallon et comment ça se fait que les quartiers populaires ne s'enflamment pas autour de cette question de cette taxe sur l'énergie. Et moi, je pense principalement que c'est une question de symboles et de codes. Culturellement, dans les quartiers, on n'avait pas cette référence identique en termes de lutte à ce qui se passait en Wallonie. Et en France aussi, effectivement. Donc moi, j'aime bien rappeler que Good Move, c'est d'abord ça, l'expression d'un mal-être général. Alors, moi, je suis prêt à parler de Good Move. Hein. Franchement, j'ai vraiment été assassiné de ce propos Good Move. Au sein d'Écolo, il y a eu très fort cette idée de dire, en réalité, on n'a pas consulté les gens. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Objectivement, si on prend la consultation effective, formelle, on l'a fait. Enfin, Écolo l'a fait. Je crois par contre que Écolo, et pas que Écolo, la gauche de manière générale, a un problème avec ce qu'on pourrait appeler les espaces informels de consultation. C'est-à-dire qu'on a besoin de penser des projets et d'intégrer des gens dans les processus de décision formelle. Mais en réalité, ce que les gens ont besoin, enfin, ce que moi je constate dans mon expérience personnelle, c'est plus que de donner leur avis, c'est d'abord d'être en face de personnes dont ils savent qu'ils ont des réponses à leur donner, mais qu'ils les écoutent, et pas qu'ils soient dans une posture systématiquement de « je sais mieux que toi ce qui se passe ». Donc moins l'idée d'être dans des espaces formels où on reçoit un mail en disant qu'on va être invité à une assemblée générale où il y aura finalement personne, où ce sera toujours les mêmes, parce que moi j'en ai goûté à des assemblées sur des contrats de quartier, des contrats d'îlots, des contrats de ceci, et en réalité il y a 7 personnes, 5 sont des gens qui viennent des associations, 2 sont des habitants et ils ont plus le capital culturel qui ressemble au mien que à celui de Ahmed qui est mon colocataire, ça je vous l'assure. C'est pas ça en fait, consulter, et je crois que c'est ça que Écolo a payé en partie, c'est d'une part l'expression incomprise d'un malaise beaucoup plus profond qui traverse les quartiers populaires, et d'autre part un manque d'ancrage dans des espaces informels qui fait en sorte qu'une fois qu'on applique une règle, malgré le fait qu'on ait des processus formels de démocratie ou de participation, les gens ont l'impression d'être absolument pas entendus. Donc écouter les gens se raconter dans leur misère ou se raconter dans les problèmes qu'ils vivent, et surtout pas seulement les écouter dans une expression misérabiliste de leurs conditions, mais les écouter surtout dans la manière et appuyer sur les boutons quand ils expliquent comment est-ce qu'ils essayent de s'en sortir. Le repli communautaire, par exemple, moi je l'interprète aussi comme une manière de générer de la solidarité dans des moments où il n'y en a plus. Où il n'y en a plus du tout. Quand on essaye d'écouter les gens dans la manière dont ils sont eux-mêmes les héros de leurs conditions parce qu'ils essayent de s'en sortir malgré tout, c'est là qu'en fait on crée, je crois, l'adhésion nécessaire pour appliquer des mesures, fussent-elles très impopulaires. Et je crois que Écolo a souffert de ces deux éléments-là. Ça, c'est une autocritique que je crois qu'Écolo doit porter. Comment est-ce qu'on recrée des espaces informels? Comment est-ce qu'on s'ancre dans ces espaces informels? Parce qu'en réalité, s'ancrer dans ces espaces informels, ça veut dire rencontrer l'altérité. Ça veut dire des gens qui ont des codes sociaux différents, qui ont une religion sans doute différente de la, je veux pas, la majorité ici, je ne sais pas si vous êtes croyants ou pas, mais bref, en tout cas des gens qui n'ont pas le même parcours de vie, et la rencontre avec des codes sociaux différents génère de la conflictualité. C'est intrinsèquement ce qui se passe. Je me pose la question de savoir quel est le niveau de conscience à l'intérieur d'Écolo sur le rapport conflictuel qu'il faut avoir avec son électeur. Est-ce que Écolo est en capacité, dans les interactions qu'il mène avec son électorat, d'avoir un rapport conflictuel, c'est-à-dire de pouvoir assumer une forme de conflictualité politique, ou doit-il, Écolo, systématiquement passer par des techniques de langage, techniques de bien-pensance, techniques de je sais pas quoi, finalement, et qui réduisent le niveau de conflictualité nécessaire. Moi, je parle à des gens de quartier qui n'ont pas la même religion, pas la même culture, pas le même capital, qui n'ont pas de diplôme universitaire, mais je vous assure que parfois, j'y vais cash dedans, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne veux pas, soi-disant parce que je n'ai pas la légitimité pour le dire, être dans une forme de je ne veux pas nier ce que je suis par rapport aux autres. Donc ça, je crois que c'est un troisième élément qu'il faut pouvoir introspecter, c'est comment est-ce qu'on crée un mouvement dans lequel on peut assumer une forme de conflictualité politique, sociale, avec notre électorat. Et la prolongation de cette conflictualité sociale qu'il faut cultiver avec l'électorat doit pouvoir se prolonger au sein du gouvernement fédéral auquel le Parti Écolo a participé. Quel est le niveau de conflictualité politique auquel il faut avoir quand on est un gouvernement fédéral? Est-ce qu'on va laisser cette conflictualité politique s'instaurer par le Parti Socialiste au sein du gouvernement fédéral? Moi, je ne crois pas. Alors, peut-être certains vont dire non, mais on s'est battu sur des choses. Oui, peut-être, mais dans les organisations syndicales, dans les mutualités, c'est pas du tout ce qui s'est fait ressentir. C'est-à-dire que Écolo n'a pas assumé la part de conflictualité politique nécessaire pour mener à bien le combat au sein du CERN. Ça, c'est le troisième élément. Et le dernier élément, et je terminerai par ça, c'est que Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber, on en parlait avec Anaïs, il ne faut pas tomber non plus dans la stratégie du... Je vais reprendre ce qu'Anaïs disait tout à l'heure, dans la stratégie du spaghetti-boulette. C'est-à-dire que créer et investir des espaces informels ne veut pas dire commencer à faire du clientélisme politique sur Bruxelles, avec, parce que ça existe, moi je le vois, il n'y a pas de raison qu'on ne le dise pas. Certains partis, le Parti Socialiste pour ne citer que lui aussi, rentre est très très bon, très très bon pour être dans des espaces informels de discussion, avoir un réseau très large de gens, mais avec toute une série de techniques qui transforment la nature qu'il y a entre l'électeur et la démocratie, rentre dans des logiques clientélistes qu'il ne faut pas, dans lesquelles il ne faut pas rentrer. Donc vous êtes confronté quand même à une difficulté. Comment est-ce qu'on fait de la politique autrement ? Parce qu'il faut, on ne peut pas tomber dans des logiques clientélistes, ça c'est clair. Je pense que Zoé a aussi une bonne... certainement une bonne expérience là-dessus sur Saint-Josse. Comment est-ce qu'on ne rentre pas dans des logiques comme ça, tout en ayant le courage d'assumer une forme de conflictualité dans des espaces informels avec des gens qui ne nous ressemblent pas? Je crois que c'est ça l'enjeu. Et alors, dernier élément, je vois redéfinir la pensée écologique pour l'ancrer dans les quartiers populaires. Moi, j'ai vu pendant les élections des candidats écolos qui essayaient de le faire, tant bien que mal. J'ai vu l'écologie du kiff, j'ai vu des podcasts qui se faisaient. Enfin, j'ai vu des candidats qui ont essayé de le faire. Ben, c'est, je pense, ça qu'il faut investir massivement, c'est-à-dire repenser à partir de ce qu'on est, des manières d'ancrer l'écologie dans les quartiers populaires en assumant la conflictualité qu'il faut. Voilà.
Merci Brieux. Et un peu naturellement, je vais demander à Zoé si tu peux réagir sur cette question de Good Move, mais de manière générale, peut-être les pratiques qui existent au sein du Parti écolo, dans la campagne et dans la gestion de la vie quotidienne après les élections aussi. Est-ce que tu penses que ces lieux existent, ces lieux d'échange informels ? Est-ce que tu penses qu'il y a une culture de la discussion, justement ? Enfin, bon, voilà, La parole est à toi.
Peut-être pour rebondir sur la nécessité du clash, la nécessité de la conflictualité. Autant moi, je suis une grande défenseuse de, dans le parti, il faut clasher, il faut se mettre d'accord, il faut arriver, il faut mettre toutes les choses sur la table et ne pas à certains moments faire semblant qu'on est tous d'accord alors qu'on n'est pas vraiment d'accord et qu'il y a toute une sorte de série de rapports de force qui sont à l'œuvre. Autant par rapport à l'extérieur, j'ai l'impression qu'on a une conflictualité de la distance. Tu vois que c'est un peu, si vraiment ils ne veulent pas de bon air, etc., bon, bah alors voilà, c'est comme ça. Hein, ils veulent du mauvais air, et bien, ils n'ont qu'à mourir dans leur mauvais air et compagnie. Et donc, c'est une forme de conflictualité non assumée, mais qui est là. Et donc, là, j'aurais envie de dire, en fait, ce dont on manque, ce n'est pas de la conflictualité, ce qu'on manque, c'est de l'amour. Moi, j'ai toujours pensé que pour pouvoir créer du lien, il faut que les gens sentent du respect, sentent que tu les apprécies, sentent que tu veux apprendre d'eux, etc., et que tu es persuadé qu'ils ont plein de choses à t'apprendre, etc. Et c'est quand tu as créé la relation que tu peux te permettre d'avoir des clashs, etc. Mais quand tant qu'il n'y a pas une relation créée, tu ne peux pas faire des clashs. Tu es déjà à 100 000 années de lumière. Et donc, il y a vraiment tout un travail de création de relations à faire pour pouvoir se permettre ensuite d'avoir des discussions un peu plus, je sais pas, là, une voisine qui nous a beaucoup soutenus. C'est vrai que là on a passé il y a pas longtemps trois quarts d'heure à discuter sur l'Evras et je suis même pas sûre de l'avoir convaincu malheureusement. Il y a d'autres forces à l'œuvre particulièrement tenaces. Les mouvements d'extrême droite français ont fait un travail de dingue dans les quartiers populaires musulmans de chez nous. Et donc. Je pense que ce qui nous manque, c'est de se dire que, oui, on ne fait pas campagne partout de la même manière, etc. Et donc, il y a distribuer sur le marché à Scarbeck un tract sur la transition durable, ça n'a aucun sens. Il faut partir des réalités des gens. Et puis, on discute, on élabore, on vient avec des propositions adaptées, etc. Mais parler extraterrestre à des gens qui sont sur Terre, ça ne fonctionne pas, quoi. Il faut vraiment qu'on fasse cet effort. Je préfère pas de tract qu'un mauvais tract complètement inadapté. Ça confirme... C'est un tract super adapté. Les gens venaient nous le demander, les gars. Hein. Mais donc, il faut vraiment partir des besoins des gens pour créer ce lien. Et quand le lien est créé, etc., on peut se permettre alors d'avoir des discussions un peu plus conflictuelles sur un sujet ou sur l'autre. Et par rapport à Good Move, la participation, etc., je pense qu'on a aussi un peu une croyance que si on avait fait une super participation, une super etc., ça se serait bien passé. Je suis pas sûre, parce que je pense que c'était pas leur priorité. Et donc, je pense que la participation, telle qu'on l'a fait avec des gens dans des salles, machin, etc., en effet, ça fonctionne que pour certains publics, etc., que donc, on doit se dire qu'on doit faire du travail pré-projet qui n'est peut-être pas de la participation, mais qui identifie tous les types d'usagers d'un lieu. Et donc, ça peut être les mamans qui vont faire des courses, les fonctionnaires qui traversent pour aller rejoindre la gare, si, voir avec chaque type de réseau, etc., comment ils travaillent sur son espace public, puis quels sont les rapports de force. Enfin, quand vous avez une place, selon le lieu, comment vous le reliez, par exemple, eh bien, vous donnez l'espace public plus à telle ou telle catégorie. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait une bonne participation que vous allez pouvoir, vraiment appréhender tous ces rapports de force. Donc, disons qu'on va faire vraiment une préparation avant des décisions où on analyse comment les différents groupes sociaux vont être impactés par vont être impactés par les décisions. Et puis, allons-y. Mais le terme participation fait en plus croire qu'on va pouvoir changer les choses. Alors qu'on ne veut pas changer les choses, on veut juste les expliquer. Et donc, ça énerve plus les gens qu'autre chose. Donc, voyons vraiment pour chaque situation. Et moi, par rapport à Good Move, je pense surtout c'est que les quartiers disaient n'auraient pu rentrer dans notre dynamique et dans nos propositions que si on avait été les voir en disant on vous aime, on veut faire avec vous un plus chouette quartier, et listons toute une série de choses dont la maille aurait été un des éléments. C'était la seule manière où ça aurait pu passer. Mais voilà, on ne l'a pas fait.
Merci Zoé. c'est intéressant parce que Marie, tu disais ça aussi tout à l'heure. Tu parlais toi, tu dis en fait, c'est pas que la mobilité, il faut faire un éventail de politiques et que dans ces éventails, il y a des politiques de mobilité. Et alors, ensuite, on peut choisir si on les amène d'abord avant d'autres choses. En effet, je ne sais pas si tu es à Saint-Josse, tu as peut-être d'abord envie de mettre une pomme dans le cartable de ton enfant pour être un peu cliché avant d'avoir un bloc de béton dans ta rue. Et du coup, en fait, Marie, en ayant vécu justement des concertations avec des politiques et des discussions, comment est-ce que tu aimerais qu'on vienne te parler et parler à des gens qui justement vivent, en fait, qui disent « mais moi, j'ai besoin de tout. J'ai besoin de la mobilité, du logement, de l'alimentation. Et vous ne pouvez pas changer juste une chose et ensuite laisser les autres, alors qu'ils sont peut-être plus vitales dans ta situation, de côté. Comment est-ce que tu aimerais qu'on vienne te parler ?»
Déjà, en ne pensant pas que je suis une ignorante, en ne pensant pas que j'ai déjà réfléchi à mes propres solutions et que j'ai déjà mis des choses en place, en fait. Parce que quand on vient avec une proposition clé sur porte sur la mobilité, bien sûr que moi, j'ai déjà réfléchi à ce qui va d'abord me coûter le moins cher. Après, effectivement, peut-être à une empreinte écologique. Mais quand on vient... souvent, on pense que la classe populaire n'est pas bien instruite, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, la classe populaire a déjà un système qui fonctionne bien, qui est la solidarité. Et donc, je pense qu'on a à prendre exemple là-dessus, de se dire que les gens s'organisent aussi entre eux pour pouvoir avoir une vie plus facile et avoir un petit peu de confort. Je vois dans certains quartiers des potagers partagés, par exemple. Ça, c'est des initiatives qu'il faut encourager, parce que ce sont, comme disait Brieux, des espaces informels où les gens vont pouvoir se rencontrer autour de quelque chose qui est fondamental, l'alimentation. Moi, par exemple, ce qui peut m'avoir été reproché quand je militais à côté des militants verts, j'en perds mes mots, c'est ma façon de consommer. Alors, je sais que ma façon de consommer, elle n'est pas forcément toujours éthique et durable, mais je n'ai pas les moyens d'acheter le poulet de la ferme à 30 balles. Tu vois, je suis obligée, dans mon budget, d'acheter du poulet à 3 euros, dont je sais qu'il est piqué aux hormones et qu'il est dégueulasse, mais ça nourrit, ça fait le taf. Donc, je me dis, avant de pouvoir penser à la mobilité, qui n'est quand même pas un des besoins fondamentaux de l'être humain, pensons d'abord à ses besoins primaires, qui sont le logement, pouvoir avoir accès à un logement décent, pouvoir se soigner de manière correcte, parce que si tu ne te soignes pas, ça engendre d'autres choses, et avoir une alimentation saine. Ça, pour moi, quand ces grands besoins primaires de l'être humain sont remplis, et ce n'est pas moi qui les ai inventés, c'est des scientifiques qui les ont pensés, s'ils sont rencontrés, alors on peut se tracasser de la mobilité. Mais effectivement, je comprends que les classes populaires de Bruxelles ne se soient pas senties concernées par le projet Good Move, et qu'il y ait eu même de la violence envers ce projet, parce que eux, c'est pas leur besoin immédiat. Moi, j'ai besoin de pouvoir nourrir mes enfants de manière saine. J'ai besoin de pouvoir leur payer une paire de lunettes quand ils en ont besoin. Et tout ça, je ne peux le faire que si je travaille. Et si je tombe malade, moi, je n'ai plus les moyens de faire ça parce que je vis sur le fil. Et donc, à partir du moment où il m'arrive une bricole, mon salaire diminue et donc je ne peux plus offrir une vie décente à mes enfants. Donc, il faut pouvoir pallier à ça. Dans les politiques publiques, il faut pouvoir penser que, par exemple, je parle de moi, mais on est plein de mères célibataires à qui ça arrive, ben, on a la seule source de revenus. Et si cette source de revenus disparaît, eh ben voilà, on est le bec dans l'eau. Et donc, je pense que mutualiser les moyens par... Je réfléchis tout haut. Hein. Mais c'est quelque chose à garder. Et alors, comment on mutualise les moyens ? Ben, c'est en créant des espaces informels. Alors, tu m'as questionné tout à l'heure sur le RIC, qui était une... grande revendication d'une part des Gilets jaunes que moi je porte, mais le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne, donc c'est une sorte de consultation populaire. Alors je suis pas contre, mais je suis pas pour, en fait. Comme moyen, ok, comme outil, mais pas comme fin en soi. Parce que je suis pas certaine que la personne qui a faim va venir à cette consultation populaire, en fait. Donc, il faut que les personnes qui sont les plus privilégiées de cette société bougent pour aller rencontrer celles qui n'ont pas les moyens de le faire, en fait. Et c'est cette forme de solidarité et le fait de sortir de cet entre-soi qui va générer des pistes de solutions, en fait. Quand on va arrêter... je te rejoins un peu dans l'histoire de l'amour. Moi, bon, j'irai pas jusqu'à l'amour, mais en tout cas, une forme de paix. Quand on voit l'autre comme étranger, peu importe son origine, je parle d'autres que moi, mais quand je n'ai plus peur de cette personne et que je comprends comment cette personne vit... Alors, on peut effectivement dire, ben, moi, je ne suis pas d'accord avec toi à ce moment-là. Mais je rejoins vraiment Brieux quand il dit qu'il faut de la conflictualité dans la construction de projets. Parce que si on est tous d'accord, ben, on reste de nouveau, on cultive un entre-soi et on laisse toute une partie de la population de côté, en fait. Mmh.
Il nous reste plus ou moins 25 minutes, juste pour un petit point, et on va faire 10 minutes de questions-réponses. Et avant de vous demander à tous les trois en fait, des pistes d'actions concrètes aussi qui peuvent peut-être nourrir les 5 prochaines années, notamment d'opposition qu'on aura à tous les niveaux, j'avais envie de te demander juste de repartager à tout le monde une expérience dont tu m'as parlé. Donc, il y a 4 ans, on s'était rencontrés dans le cadre de l'organisation d'un blocage de Feluy, donc la zone qui raffine, je pense, c'est une raffinerie encore, de pétrole en Belgique. Et c'était un projet en fait, des Gilets jaunes et des mouvements climatiques qui a été abandonné. Et il y a quelques mois, un an, Code Rouge a refait un blocage de ce lieu. Et est-ce que tu veux un peu parler de la convergence des luttes qui s'est passée dans ce cadre ? Je dis convergence des luttes entre guillemets parce que...
L'absence de convergence, c'est plutôt, ça. J'ai envie de dire. Ben, en fait, il y a les beaux discours qui parlent de faire converger les luttes et puis alors il y a les actions. Et donc, il y a 4 ans d'ici, on est venu avec un beau plan de bloquer le chemin de fer qui sort de Feluy et qui alimente le Luxembourg en carburant. On s'est dit... si on crée un incident entre guillemets diplomatique entre deux pays, peut-être que ça va bouger plus. À l'époque, on vient avec les plans, on explique la manière de faire, et moi, je suis partante d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'arrestation s'il le faut, et on présente ça au réseau ADES, qui est un réseau militant à Bruxelles. Après la discussion, on me dit, Marie, cette action, elle est quand même risquée parce que tu pourrais être accusée d'actes terroristes parce que tu vas quand même bloquer un chemin de fer. Alors là, j'en avais bien conscience et je m'étais dit, ouais, sur le CV, ça fait pas bon genre quand on est éduc d'avoir un truc terroriste dessus. Mais bon, je me dis, si c'est pour faire évoluer les choses, pourquoi pas. Et on décide de mettre cette action au placard. Et puis, 4 ans plus tard, genre il y a quelques mois d'ici, je suis contactée par une personne avec qui j'ai milité, qui me dit « Ah Marie, avec Code Rouge, qui est une coalition de différentes associations militantes et politiques et syndicales, on va bloquer le chemin de fer de Feluy, est-ce que tu veux en être ?» Et là, je me prends une claque et je dis « Mais et ce sera à cette date-là et on va faire comme ci, comme ça. » Et là, je me dis « Mais bande d'enfoirés !» Je dis, nous, on vous fait un projet d'action clé sur porte il y a 4 ans. Vous dites, ah non, non, non. Et là, maintenant, vous venez avec notre projet, notre lieu de symbolique de lutte que vous allez prendre. Et vous ne prenez même pas la peine de nous concerter avant de faire votre plan. Alors, je redis, je dis, là, il y a un problème. Je dis, je ne vais pas pouvoir, entre guillemets, motiver les troupes chez nous. Parce que vous avez volé notre action. Vous avez volé notre mode d'action et notre lieu de lutte. Et là, ça ne va pas le faire. Et donc, il y a eu une absence de convergence des luttes. Et donc, une lettre d'excuse a été faite pour faire genre. Et on m'a demandé d'essayer de quand même mobiliser quelques personnes. Alors, j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai essayé de mobiliser des gens. Et moi, je me suis dit, de toute façon, on n'a pas de temps à perdre. Ça, c'est mon avis perso. C'est qu'on n'a pas de temps à perdre dans des chamailleries d'actions. Il faut faire les actions, en fait. Donc là, il y avait une action qui était proposée. Il faut y aller. Mais tout le monde ne pense pas comme moi. Donc, il y a quand même... Il y a des gens qui y ont été, des gilets jaunes qui ont participé à ce truc. Et ça a été, de nouveau, un grand moment de rencontre pour certains. Parce qu'ils se sont sentis écoutés pour la première fois dans leur vécu et dans leur trip, dans ce qu'ils vivaient. Et donc, de nouveau, dans un moment informel de lutte, où, en fait, ben, je ne sais pas d'où tu viens et tu ne sais pas d'où je viens, mais on est là pour une bonne raison, et la raison, elle est commune. J'ai des frissons en parlant. On se retrouve et on peut discuter. Donc, je pense qu'il faut faire ce genre de truc, mais qu'il faut être attentif à la manière dont on le fait, parce que ça peut créer des conflits qui ne sont pas nécessaires. Donc, suite à ça, il y a des gens qui, que ce soit du côté des gilets verts, comme ça, c'est stéréotypé, schématique, mais on s'y retrouve, autant du côté des gilets verts que des gilets jaunes, il y a eu une forme de dialogue et les gens ont déposé leurs armes, ont déposé leurs stéréotypes et se sont dit « Ah putain, tu vis ça, toi. Ah, et toi, tu vis ça. » Et dans ce moment de lutte, on gagne du terrain sur et on fait bouger les lignes, en fait.
Merci, c'était très beau. ouais, ça mérite bien un applaudissement. Bah justement, avec un peu justement cet espoir de dire, en fait, des fois, ça ne marche pas, mais quand on y va, ça marche. Et en fait, ça recrée des liens et ça crée des nouvelles possibilités. Moi, j'ai envie d'un peu peut-être clôturer cette discussion sur... mais en fait, c'est quoi la suite ? Là, on a eu aussi une défaite historique pour les forces progressistes, en tout cas, enfin, en Belgique en général, en Wallonie, à Bruxelles en particulier. On a un gouvernement qui tire, des gouvernements qui vont tirer dans tous les sens. On ne saura même plus par où commencer, par quelle lutte commencer, et est-ce que justement la convergence des luttes, bah, c'est pas une manière de sauver, d'économiser des forces, de créer justement la solidarité dont tu parlais, Marie. Et moi, j'ai envie de vous entendre un peu tous les trois sur comment vous voyez les choses pour l'avenir, quelles sont les choses qui pourraient être mises en place et qui pourraient être porteuses d'espoir aussi pour plein de gens qui vont vivre des années très compliquées dans les années à venir, autant sur les mouvements sociaux qu'au niveau programmatique politique. Je ne sais pas qui veut commencer.
Mais donc, ce qui est clair, c'est qu'avant de parler convergence de lutte, il faut d'abord des luttes. Ça paraît con, mais en réalité, par rapport à ce qui est en train de se passer dans le contexte actuel, c'est pas si clair. Il y a des luttes locales qui sont importantes, il y a des luttes sur le droit du travail, notamment, on l'a vu ici récemment. Mais n'empêche que par rapport à ce qui est décrié dans les premières notes qu'on a, même si le gouvernement a échoué, les attaques contre la sécurité sociale d'une manière générale, mais contre le droit du travail encore plus et contre les organisations syndicales sont quand même très importantes. Hein. On parle quand même de, on parle quand même de donner une personnalité juridique à des syndicats, leur obliger à donner leur compte annuel. Donc on sait tout le poids symbolique que ça représente. On parle de sanctionner davantage les malades de longue durée, réintroduire le jour de carence, limiter les heures hebdomadaires minimales. On est sur des niveaux qui sont importants. Et force est de constater, et j'en prends aussi pour moi, c'est que dans le paysage des structures, et là je parle des appareils capables, avec une base sociale, capables de pouvoir engranger des forces de mobilisation, des mouvements et des luttes, c'est pas la joie par rapport à 2014. On est dans un autre contexte qui est fondamentalement différent. À la même époque, en 2014, alors les choses étaient différentes, le contexte n'est pas le même, la gauche n'avait pas perdu à ce point, mais néanmoins, avant même d'avoir une déclaration de politique fédérale, on avait déjà la constitution d'un front commun syndical qui n'existe pas aujourd'hui. Pire, on attend les réactions dont on sait tous qu'elles vont être très mauvaises. Donc là, je pense que c'est pas pour dire que c'est la merde, mais c'est quand même pour tirer la sonnette d'alarme sur le fait qu'on a des attaques qui sont très importantes et des appareils, des structures qui sont en incapacité, pour le moment, d'organiser leur base sociale et pour certaines, des bases sociales qui sont quand même encore conséquentes. Ça, c'est un premier point. Ça veut dire que moi, je crois que si on ne fait pas ça, si les appareils et les structures ne sont pas en capacité d'organiser la lutte et l'anticiper, on va de nouveau avoir des espaces d'organisation et de lutte qui vont être extraites, qu'on sortir du champ classique des organisations, c'est-à-dire dans des mouvements spontanés dans des entreprises, dans des ateliers et des mouvements citoyens qui vont se lever. Le problème, c'est pas un problème en soi d'avoir cela, c'est juste que la récupération politique dans le sens positif du terme, c'est-à-dire la traduction politique en mesure publique de ces mouvements risque d'être plus fragile. Et en deuxième menace, c'est qu'il risque d'y avoir, je crois aussi, une tension entre les appareils syndicaux mutualistes et corps intermédiaires et associations et les mouvements spontanés qui vont naître sur le terrain. Donc ça, première sonnette d'alarme. Moi, je pense que la défaite de la gauche, de manière générale, et ce n'est pas une critique spécifique par rapport à Écolo, mais nous force quand même à devoir nous poser une question. C'est qu'en termes de récit, de narratif, il y a quelque chose qui ne va pas. Le discours méritocratique de Georges-Louis Boucher performe dans les classes populaires. C'est pas une surprise en fait, en réalité, mais je pense que ça nous oblige. Moi j'ai été bercé sur la musique, de responsabiliser les gens sur les problèmes sociaux. Ça ne fonctionne pas, c'est injuste. Évidemment, on peut pas peser la responsabilité de la maladie sur le malade lui-même, ça sert à rien, ni même celle du manque de travail sur le chômeur. Le discours de la gauche doit pouvoir évoluer parce que ce que je constate dans les relations que j'ai avec les personnes dans le quartier, c'est qu'il faut aussi pouvoir leur dire que s'ils ne sont pas responsables de ce qui se passe là, et là, je n'ai pas de certitude dans ce que je dis ici maintenant, c'est vraiment du test, ils ne sont pas responsables de ce qui se passe là, ils ne sont pas responsables de leur maladie, mais par contre, ils ont un pouvoir d'agir qui est grand. Et je crois que parfois, à gauche, à force de dire qu'ils ne sont pas responsables des problèmes, on confond avec le fait qu'ils n'ont pas de pouvoir d'agir sur la situation qu'ils vivent. Et d'une certaine manière, ça les déresponsabilise à outrance et donnant un sens un peu spécial qu'ils ne peuvent plus rien faire. Or, on a là quelqu'un comme Georges-Louis Boucher qui est très malin, d'ailleurs parce qu'il est un des seuls responsables politiques à rencontrer Action Citoyenne à l'époque. C'est lui qui avait demandé de rencontrer, un des premiers à rencontrer les Gilets jaunes, parce qu'il avait bien compris qu'il y avait là quelque chose à aller chercher en termes de narratif. Lui vient avec quelque chose de tout à fait nouveau. Il dit, vous êtes responsable de votre situation, mais surtout, vous pouvez changer votre situation. Et quand vous dites ça à quelqu'un, une maman seule qui se bat toute la journée, qui entend à la radio quelqu'un qui lui dit « mais tu peux y arriver » et tu le fais déjà. Si tu travailles, tu vas y arriver. En réalité, j'ai l'impression que c'est plus performatif que quelqu'un de gauche qui veut l'expliquer que sa situation est due au capitalisme, au problème de répartition des richesses, à l'inégalité, etc. Blablabla. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit glisser vers le « en réalité, les gens sont responsables des situations structurellement inégalitaire qui les place dans ces situations-là. Mais dans le discours, dans le narratif, la gauche doit, je pense, évoluer en recherchant quelque chose là-dessus, en redonnant la capacité aux gens d'avoir du pouvoir d'agir dans leur situation. En tout cas, moi, je vois très bien qu'avec les jeunes, quand je leur dis, en fait, en réalité, la situation que tu vis, c'est le capitalisme, c'est la société de manière générale, ça ne fonctionne pas, juste ça ne marche pas. Et ça ne les aide pas à aller au CPS. Par contre, quand je leur dis, en réalité, maintenant, tu bouges ton cul parce que t'as de la possibilité d'agir, t'es malin, t'es intelligent, tu peux le faire. Et puis il va au CPS, et puis on revient en disant ce qui s'est passé là, c'est quelque chose qui est lié à une inégalité que tu as vécue, telle, telle, telle. Et on commence à parler, alors là, ça fonctionne. Moi, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre par rapport à ça, mais je crois qu'il y a là quelque chose à modifier. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, pour Écolo, enfin, je veux dire, le service public, la sécurité sociale, le droit du travail, les trois dimensions de l'État social qui, quand même, permet d'arracher aux mains du travail près de 150 milliards d'euros sur un PIB. En tout cas, 150 milliards, je vois Philippe Defed qui me regarde avec des yeux. Mais bon, je crois que c'est plus ou moins ça. C'est des outils de redistribution des richesses. Parce que dans Fin du monde, fin du mois, il y a fin du mois. Et la fin du mois, ce qui permet aux gens de pouvoir survivre aujourd'hui, c'est les transferts sociaux. 44%, c'est le niveau de pauvreté actuel en Belgique si on n'avait pas de transferts sociaux qui sont dus à la sécurité sociale qui est elle-même basée sur l'institution qu'est la cotisation sociale. Et donc ça, je crois que c'est une formation politique permanente qu'il faut avoir au sein des partis progressistes de gauche. On tient à ces institutions de l'État social.
Peut-être Zoé ou Marie, tu veux...
Moi, ce que je voudrais juste rajouter et rebondir par rapport à ce que tu dis concernant la sécurité sociale, c'est qu'un des leviers, c'est l'éducation populaire. Parce que dans les classes populaires, les gens n'ont pas forcément conscience de ce qu'est la sécurité sociale. Tout ce qu'ils voient, c'est un impôt sur leur salaire et de la thune qu'ils n'ont pas. Alors quand on prend la peine de discuter avec eux et de leur expliquer à quoi servent ces cotisations sociales, alors ils sont en mesure de comprendre et de se dire « Ah ouais, donc en fait quand je suis malade, si je touche un salaire, c'est parce que j'ai cotisé. Si je perds mon job et que j'ai des allocations de chômage, c'est parce que j'ai cotisé. » Alors tout ça, ça prend son sens. Et donc il y a toute une partie... Alors je ne dis pas que les gens sont cons, mais je dis que les gens n'ont pas tous accès à l'information et que de vulgariser ce qu'est la sécurité sociale, ce que sont toutes ces cotisations qu'on paye, ça pourrait franchement aider les gens à les conscientiser et à leur dire, mais vous êtes capable en fait aussi. Moi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis quand tu dis à quelqu'un, mais tu peux faire ça, vas-y, plutôt que de lui dire, oui, c'est pas de ta faute. Parce qu'on tombe vite dans un truc fataliste, oui, c'est pas de ma faute, je sais rien faire, du coup, c'est pas de ma faute. Mais quand on remet dans les mains de quelqu'un, entre guillemets, sa destinée, sans lui faire peser la responsabilité du problème, parce que ça, c'est vite fait aussi, alors on peut retrouver des citoyens qui vont pouvoir se remobiliser.
Merci beaucoup. Et le mot de la fin pour Zoé. Après, attendez juste, est-ce que vous voulez qu'on prolonge de 10 minutes pour avoir une petite séance questions-réponses, ou est-ce que vous voulez qu'on s'arrête après l'intervention de Zoé ? Prolonger, vous pouvez les mêler la main. Et s'arrêter. Ok, une majorité prolongée, donc vas-y Zoé.
Mais donc quand tu dis dans les quartiers populaires, on ne sait pas ce que c'est la sécurité sociale, je pense que la situation est plus grave que ça. Moi, quand je discute avec pas mal de militants de l'environnement ou de militants de la lutte contre les discriminations, ils ne savent pas non plus comment fonctionne la sécurité sociale. Et donc, il y a vraiment un gros boulot à faire aussi de réinvestissement des sujets sociaux en disant il n'y a pas que les petites patches, les petites rustines, de petits trucs, etc. Non, le combat principal, c'est le combat des revenus, c'est le combat du logement. Parce que tu disais tout à l'heure, il y a les besoins fondamentaux. Et donc, il faut qu'on se forme, il faut qu'on continue à former, qu'on donne les outils pour justement ensuite pouvoir être de bons alliés sur le terrain et pouvoir dire ben voilà, il y a tel droit, on peut se battre de telle manière pour le fait. Est-ce que tu connais l'outil des médiateurs fédéraux? On pourrait essayer de faire ça comme ça, etc. Mais ça, ce n'est possible que si nous-mêmes, on se forme. Et donc, on doit se former, continuer à être en pointe sur les sujets sociaux pour pouvoir venir avec des propositions qui collent justement avec ces réalités, mais aussi se former, et là c'est pour justement être de bons alliés, des gens capables de... C'est connaître les gens, et pour pouvoir justement avoir cette interaction et devenir des bons alliés. Et pour ça, on a dans le parti une série de gens ponts, de gens capables de discuter dans des milieux où on n'est pas. On doit choyer ces gens ponts, on doit les accompagner pour pas qu'ils retournent dans un groupe plus populaire, dans un groupe de notre origine, etc. Il faut qu'on profite de leurs connaissances, etc., pour pouvoir être ses alliés. C'est un des outils vraiment. Et à l'heure actuelle, c'est plutôt le contraire. Tous ces gens qui sont un peu, pas tout à fait comme nous, on les regarde un peu comme des suspects. C'est pas vraiment un écolo, tu vois, un vrai là, un vrai de vrai. Non, c'est une richesse, c'est un diamant. On en a besoin 10 fois plus de ces jampons et on doit être à leur côté pour les soutenir. Parce que dans notre militance, il y a cette question de fond, cette question des combats essentiels sur les revenus, sur le logement, etc., sur ces besoins essentiels. Mais il y a aussi, dans notre militance, moi j'avoue que quand je vois toutes les semaines des mandataires écolos avec le casque sur la tête en train de parler qu'un entrepreneur vert, les gars, il n'y a pas que ça, quoi. Hein. Je veux dire, c'est que parce qu'on discute, parce qu'on comprend les réalités, qu'on est bon dans les parlements, qu'on est bon sur le terrain, etc. Et donc, il faut discuter avec toutes les catégories pour pouvoir être capable pour ça, pour se former, pour apprendre des réalités. J'étais à Liège samedi passé pour faire un atelier sur le contact avec le public et sur le porte-à-porte. Et ils étaient, comme d'habitude, les écolos. Je ne connais pas encore tout le programme, les 250 propositions. Je dis, l'objectif aujourd'hui, c'est que vous appreniez, c'est que vous reveniez en disant qu'est-ce qui fonctionne dans ce quartier, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est le seul objectif. On descend sur le terrain, on apprend. Et de fois en fois, vous allez devenir meilleur, vous allez devenir plus expert. Vous saurez dire, ah oui, il y a telle difficulté là, mais j'ai entendu là-bas qu'il y a ceci. Et donc, vous êtes en capacité de devenir ses alliés parce que vous avez écouté, parce que vous avez été en contact avec le public. Mais pour ça, il ne faut pas se dire que ce contact avec le public, c'est juste un outil au moment des élections. Et comme on sait que nos électeurs, c'est surtout des gens formés, alors on ne va pas prendre du temps pour faire du porte-à-porte dans le quartier pourri parce que ça rapporte pas. Non, il faut toute la législature que ce travail se fasse, d'abord avec des groupes peut-être un peu plus proches de nous, puis avec des groupes un peu plus éloignés, grâce à ces personnes ponts, grâce aux activités que les groupes organisent, etc. Mais c'est vraiment une priorité. On ne sait pas travailler pour et avec les gens si on ne les rencontre pas juste tout seul dans nos bureaux avec nos idées géniales. Ça ne fonctionne pas. Et donc, je voudrais vraiment que on... Et donc, je pense vraiment qu'une une des choses qu'on doit aussi toujours avoir en tête, parce que c'est ça qui nous a perdus avec des good moves, avec des « il faut retirer les vieilles voitures », etc., c'est que pour chaque mesure, on réfléchisse exactement. Voilà, je connais telle personne qui est en problème de santé depuis 3 ans, qui a un revenu ridicule, etc. Est-ce que la mesure que je fais, est-ce qu'elle en profite ? Est-ce qu'elle lui coûte, etc. Chaque mesure, ça ne doit pas être analysée uniquement avec son empreinte environnementale, elle doit aussi être analysée avec son empreinte sociale. Et est-ce qu'on est prêt à faire cela ? Est-ce qu'on sait le faire dans des bonnes conditions, pas seulement pour moi et mes cousins, mais pour toutes les catégories de la population et pas pour les grands. Les grands, ils vont se débrouiller tout seuls. Ils n'ont pas besoin de nous, les gars. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pour moi l'important, c'est qu'à chaque mesure, on vérifie à qui ça profite, à qui ça coûte. Et souvent, quand on a une bonne idée, moi, je voudrais quand même... Ils l'ont tout le temps entendu et compagnie. C'est, je dis toujours, les gars, si c'est une bonne idée, gentillette, qui fait que même le CDH aurait pu la dire, c'est que ce n'est pas une bonne idée. On retravaille.
Merci beaucoup. On va prendre peut-être une salve de 3 questions. Allez-y, monsieur.
Ok, alors, on a parlé exclusivement de fin du mois, et c'était très, très, très intéressant. Mais il faut quand même qu'on parle un peu de fin du monde. Parce qu'on a dit 3 fois, je pense, qu'on a parlé de transition écologique. On n'a pas dit vers quoi on allait. Je ne l'ai pas vu aux dernières élections. En fait, vers quoi est-ce qu'on va ? C'est pas une histoire de transition énergétique, c'est pas une histoire de... Non, c'est une vue d'ensemble, il faut une approche systémique quelque part, et c'est très très bien évidemment qu'on s'occupe des besoins fondamentaux, parce qu'en fait, c'est le quotidien. Mais si à côté de ça, il n'y a pas un niveau au-dessus où on dit, mais dans 20 ans, le monde qu'on imagine, c'est celui-là. Alors, en fait, on tourne en rond. Je suis désolé. Moi, je ne sais pas où on va, en fait. Et en tant que grand-parent, par exemple, je ne sais pas ce que je dois expliquer à mes petits-enfants. Parce qu'il n'y a personne qui parle du monde de demain. Tout ce que j'entends d'aujourd'hui, c'est mettre des rustines sur les problèmes d'aujourd'hui. Mais pas sur là où on va, en fait. C'est quoi le monde de demain ? C'est ça que j'attends de vous. En fait.
Merci beaucoup. Très, très bonne question. Une deuxième ?
Donc, moi, ce n'est pas vraiment une question, mais juste une remarque. Je suis en quelque sorte un peu soulagée et contente d'avoir assisté à cette conférence parce que j'ai beaucoup aussi hésité avant de voter écolo, mais enfin, je l'ai quand même fait au final, mais pas pour les mêmes raisons, je pense, que monsieur. Justement parce que je trouvais que l'aspect, fin du mois ne ressortait pas assez du programme, et donc je suis rassurée en fait d'entendre que j'ai l'impression que écolo se tourne vers ça maintenant, et donc voilà, je voulais juste je pense que justement avant de pouvoir faire une révolution environnementale, on doit d'abord avant toute chose faire une révolution sociale, je pense, parce qu'on ne peut pas laisser les gens de côté. Donc voilà, merci
beaucoup. Une troisième question.
Ouais, voilà, et tout à l'heure, on a parlé d'altérité, de clash et d'amour. Et en fait, je pense que quand il y a un stress, il y a soit on se bat, et donc c'est quelque part aller au clash, ou bien soit on se barre. Ça, c'est éviter le conflit. Et je pense que rester et aller au conflit, essayer de passer au-dessus, c'est du vrai amour, en fait. Donc les deux vont ensemble, et je pense que ta manière de parler le montre très bien. Et alors, une deuxième chose, c'est point de vue citoyenneté. En fait, j'ai une copine qui donne cours dans le... enseignement professionnel, je ne sais pas quoi, enfin, je ne connais pas bien les définitions. Et là, en cours de citoyenneté, elle explique ce que c'est une feuille d'impôt, elle explique ce qu'on paye, la mutuelle, machin, etc. Et il n'y a pas ça dans le général, et je trouve ça délirant, en fait. Je dis, on ne sait pas ce que c'est remplir une feuille d'impôt, on ne sait pas ce que c'est garder ses papiers de la mutuelle, on ne sait pas pourquoi on paye quoi. Et les gens, par exemple, enfin, moi je suis photographe, donc je suis intermittent, hein, la Smart, il dit, oui, mais la Smart prend 50%, mais tous les employeurs payent à environ 50% parce qu'il y a chômage, machin, enfin. Donc les gens ne connaissent pas. Et une troisième chose, par rapport à aller chercher les gens, donc je suis photographe, et donc j'ai photographié dans des tas de couches sociales de la population. Et il y a notamment un truc assez emblématique, c'est il y a le festival Supermouche, Supervlich. Donc il y a un truc de théâtre de rue et tout ça qui se passe dans le parc de forêt, parc d'Uden, parc forêt je crois. Et donc en fait c'est un truc avec des moyens de la région délirants, c'est magnifique, c'est un peu bobo, il y a des bières à 5 balles et des crêpes à 7, etc. Mais c'est un super chouette niveau artistique. Et alors, les gens qui sont plutôt du bas de Saint-Gilles-de-Forêt, qui sont d'habitude sur la pelouse, dès qu'ils peuvent, pour profiter d'un jardin qu'ils n'ont pas, et qui sont de cultures différentes, eh ben, ils ne se sentent pas bienvenus là-dedans. Et donc, aller chercher les gens et leur dire « tu as droit à ça parce que tu payes ça avec tes impôts eh », ben, c'est fondamental. Enfin, excusez-moi, j'ai beaucoup parlé. Mais...
Non, très bonne question, intervention. Peut-être, est-ce qu'un d'entre vous, de vous trois a envie de répondre d'abord ? Moi, j'aimerais juste répondre un peu à monsieur qui a posé une question, parce que j'ai aussi travaillé sur les questions de transition, juste pour Zakia Katabi, la ministre fédérale du Climat. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que la question de la trajectoire, nous, par exemple, on l'a amenée auprès de la société civile, dans le cadre d'un forum associatif autour de la transition juste. Et on a dit aux gens, la question, c'est plus où on va. En fait, l'objectif, on l'a, c'est l'accord de Paris. On doit se demander comment on y va en 2050, comment est-ce qu'on a atteint une trajectoire décarbonée en prenant en compte les questions des besoins fondamentaux. C'est cette question-là qui se pose autour de fin du monde et fin du mois. Si on devait avoir la neutralité carbone, on a assez dans les contenus du GIEC pour savoir quoi faire. La question, c'est le faire en démocratie, c'est le faire avec les gens, les prendre avec nous et savoir qu'est-ce qu'on priorise comme mesure. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'on a focalisé sur fin du monde. C'est parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, la base de cette discussion, elle n'est pas en place. En tout cas, voilà.
Après, j'aurais envie de réagir. On sait où on va. On va dans le mur. Oui, mais...
C'est quoi l'alternative ?
Ah ben, oui, mais il faut qu'on choisisse la manière dont on y va, en fait. Soit on se le prend en pleine gueule, comme on est en train de le faire, soit on se met tous ensemble autour de la table et on se dit, on limite les dégâts. Pour limiter les dégâts, il faut mettre tout le monde dans le bateau. Et si on n'a pas un discours commun de base... Alors, j'entends bien que pour vous, ce n'est pas la priorité de mettre quelque chose dans son assiette. Tant mieux pour vous. Mais ce que moi, je dis, c'est que tant que les gens n'auront pas l'estomac plein avec de la nourriture saine, qui n'auront pas un toit au-dessus de la tête, qui ne pourront pas être en bonne santé, ils ne vont pas pouvoir se soucier de la manière dont on va se prendre ce mur. Alors le projet de vie, on doit le décider tous ensemble. On sait où on va. On y va à fond de cale parce que pour l'instant, on vit sur une planète comme si on considérait que les ressources étaient infinies, alors qu'elles ne le sont pas. Mais ça, en tant que citoyen, on le sait. Et c'est pas dans notre pouvoir de changer ça, parce que nous, on fait déjà tout ce qu'on peut. Donc moi, je pense vraiment qu'on doit limiter les dégâts en mettant tout le monde dans le bateau, en créant des espaces informels. Parce que quand vous me dites qu'on ne sait pas où on va, moi, je sais où on va. Hein. On va se casser la gueule. Ça, c'est sûr.
Mais peut-être, moi, ce n'est pas du tout ma spécialité. Je veux dire, quand on allait dans les écoles et qu'on me demandait c'était quoi l'écologie, j'utilisais le vieux truc de Marc Ordiz ou de je ne sais pas qui dit solidarité au cube. Solidarité ici et maintenant entre riches et pauvres. Solidarité entre le nord et le sud. J'ai pas envie qu'on aille mieux en pillant le sud. Et puis solidarité entre les générations actuelles et les générations futures. Et c'est seulement en conjuguant cela qu'on peut en tout cas définir cette trajectoire. Et on est d'accord que, je veux dire, c'est l'ensemble des épuisements sur lequel il faut travailler, pas seulement un de ces aspects. Mais la difficulté, c'est que soit on se dit il nous faut une bonne dictature verte pour corriger tout ça et arriver à ne pas faire tous ces épuisements, soit on se dit il faut qu'on construise des trajectoires qui font que la majorité des gens restent dans le bateau. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Et ça peut se faire que si on a 51% des citoyens qui sont avec nous et qui nous disent « Ok, je suis prêt à faire cet effort-là parce que je vois que les plus gros vont faire tel et tel et tel effort parce qu'ils consomment nettement plus de telle et telle ressource et ainsi de suite. » Et c'est en créant peu à peu cet équilibre qui fait qu'ils voient leur situation ici s'améliorer sans que ça n'hypothèque la trajectoire qu'on fait par rapport à justement ce non-épuisement des ressources.
Non, moi, je voulais juste dire que pas de temps par rapport à la question, parce que je trouve que Marie et Zoé ont assez bien répondu, mais par rapport à ce qu'il faudrait faire sur les 5 prochaines années, du point de vue écolo, 5 ans d'opposition, je suis navré de voir que ben voilà, y a des gens qui, dans les cabinets, vont retrouver du travail, mais ça peut aussi, et voilà, représenter une opportunité. La question sociale, elle s'appréhende aussi à travers les appareils, les mutualités, les organisations syndicales, les organisations qui traitent avec des publics qui sont précarisés. Et moi, je suis à la mutualité socialiste, pas francophone, socialiste. C'est pas pour autant que voilà, on connaît les liens historiques qu'il y a avec le Parti socialiste. C'est pas pour autant que on est cul et chemise avec le Parti socialiste. Il faut absolument, moi je pense, un enjeu pour écolo sur les 5 prochaines années. La résistance, elle se fait dans les parlements, c'est hyper important. Elle se fait sur les réseaux sociaux, dans les marchés, mais elle se fait aussi dans les organisations syndicales, dans les mutuelles. Et donc ça, c'est pour moi les personnes de écolo. Je ne vois que trop peu d'écologistes dans ces espaces structurels. Donc j'exhorte toutes les personnes qui recherchent de l'emploi à non pas aller chez Natagora, mais à venir postuler à la FGTB, à la CSC, à la Mutualité Chrétienne, pas chez les libres ni les libéraux, mais dans les organisations sociales qui ont encore un projet de société ou qui encore, en tout cas, se raccrochent à des dimensions de notre état social et qui font fonctionner les mécanismes de redistribution structurelle. C'est le meilleur moyen de pouvoir, je crois, de faire entrer plus globalement la dimension, la question sociale au sein de l'ADN du corpus idéologique d'écolo. Voilà.
Merci pour... Est-ce qu'il y a encore des questions? Allez, une petite dernière pour la route.
Je suis vraiment d'accord avec vous concernant les syndicats, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience aussi dans la communication de tout l'aspect social. Enfin, je suis cheminote, donc on a une grande culture syndicaliste. Voilà. Ce que je voudrais dire aussi avec ça, c'est que malheureusement, tout ce qui est médias ne s'approprie pas ces questions et vont plutôt à l'encontre jouent un mauvais jeu contre l'écologie et en général les questions sociales. Enfin, je trouve ça injuste et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de médias indépendants qui sont sur la scène, même médiatique belge. Moi, je vois beaucoup de médias alternatifs en France qui sont là vraiment très présents et qui se battent, qui ont des figures vraiment très populaires. Voilà, enfin, vous les connaissez. et qui véhicule beaucoup de solutions aussi. je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a écrit la BD. Voilà, Jean Covici, ou bien le biologiste, l'astrophysicien Aurélien Barreau. Enfin, voilà, tous ces gens sont extraordinaires. Ils sont vraiment intéressants à écouter. Voilà, ils sont peut-être aussi dans leur sphère, etc., universitaire, mais ils sont motivants. Allez, enfin, voilà, c'est dommage qu'il n'y a pas aussi... Les médias ici sont forts, cloisonnés, et ils ont toujours la même source d'informations. Et voilà, enfin, je trouve ça très décourageant.
Ouais, merci. Peut-être juste une réponse entre vous trois.
Non, moi, juste dire que d'accord sur le fait que le traitement médiatique de l'écologie est pas ouf dingue pour le moment, mais pas tout à fait d'accord sur le fait que ça a toujours été le cas. Parce que pendant les grandes marches climatiques, quand il y a un grand mouvement social très, très massif, en fait, les détracteurs de droite disaient que les médias étaient à la solde du mouvement écolo, etc. Blablabla. Donc en réalité, je crois que c'est moins une question d'institution médiatique, bon, et qu'il faut changer aussi, il y a beaucoup de problèmes, que de construction de mouvements sociaux massifs qui, du coup, donnent le sentiment que toute la société est entraînée vers quelque chose et qui occupe l'espace, quoi. Voilà, c'est juste ça que
merci.
Je voulais...
Merci. Donc, des questions de mise à l'agenda, forcer l'agenda politique. On va fermer la conférence ici. Merci à tous et tous d'y avoir assisté. J'espère que ça va un peu, peut-être, faire naître des graines de réflexion aussi en vous pour les prochaines années. Et voilà, on vous souhaite un bon week-end.
Ce débat a été enregistré dans le cadre du Vert Pop à Namur le 23 août 2024. Participaient à celui-ci Marie Gobert, militante gilet jaune et engagée pour la justice climatique, Zoé Genot, ancienne mandataire écolo, Brieux Watelet de la cellule politique de Solidaris, il a été président de la Fédération des étudiants francophones. Ce débat a été animé par Anaïs Demunck, politologue. Vert Pop est organisé comme chaque année par Etopia, centre de recherche et d'animation en écologie politique.